Acte 28, donc nous sommes à la fin, nous allons lire ce chapitre 28. Une fois hors de danger, nous reconnûmes que l'île s'appelait Malte. Les barbares nous témoignèrent une bienveillance peu commune. Ils nous recueillirent tous après auprès d'un grand feu qu'ils avaient allumé parce que la pluie tombait et qu'il faisait très froid. Paul ayant ramassé un tas de broussailles et l'ayant mis au feu, une vipère en sortit par l'effet de la chaleur et s'attacha à sa main. Quand les barbares virent l'animal suspendu à sa main, ils se dirent les uns aux autres « Assurément, cet homme est un meurtrier, puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre après qu'il ait été sauvé de la mer. » Paul secoua l'animal dans le feu et ne ressentit aucun mal. Ces gens s'attendaient à le voir enflé ou tomber mort subitement, mais après avoir longtemps attendu, voyant qu'il ne lui arrivait aucun mal, ils changèrent d'avis et dirent que c'était un dieu. Il y avait dans les environs des terres appartenant au principal personnage de l'île, nommé Publius, qui nous reçut et nous logea pendant 3 jours de la manière la plus amicale. Le père de Publius était alors au lit, malade de la fièvre et de la dysenterie. Paul s'étant rendu vers lui, pria, lui imposa les mains et le guérit. Là-dessus vinrent les autres malades de l'île et ils furent guéris. On nous rendit de grands honneurs et à notre départ, on nous fournit les choses dont nous avions besoin. Après un séjour de 3 mois, nous nous embarquâmes sur un navire d'Alexandrie qui avait passé l'hiver dans l'île et qui portait pour enseigne les Dioscures. Ayant abordé à Syracuse, nous y restâmes 3 jours. De là, en suivant la côte, nous atteignîmes Reggio et le vent du midi s'étant levé le lendemain, nous fîmes en 2 jours le trajet jusqu'à Pouzzoles, où nous trouvâmes des frères qui nous prièrent de passer 7 jours avec eux et c'est ainsi que nous allâmes à Rome. De Rome vinrent à notre rencontre, jusqu'au forum d'Appius et aux 3 tavernes, les frères qui avaient entendu parler de nous. Paul, en les voyant, rendit grâce à Dieu et prit courage. Lorsque nous fûmes arrivés à Rome, on permit à Paul de demeurer dans un domicile particulier avec un soldat qui le gardait. Au bout de 3 jours, Paul convoqua les principaux des Juifs et quand ils furent réunis, il leur adressa ces paroles. « Hommes, frères, sans avoir rien fait contre le peuple ni contre les coutumes de nos pères, j'ai été mis en prison à Jérusalem et livré de là entre les mains des Romains. Après m'avoir interrogé, ils voulaient me relâcher parce qu'il n'y avait en moi rien qui mérite la mort. Mais les Juifs s'y opposèrent et j'ai été forcé d'en appeler à César, n'ayant du reste aucun dessein d'accuser ma nation. Voilà pourquoi j'ai demandé à vous voir et à vous parler, car c'est à cause de l'espérance d'Israël que je porte cette chaîne. » Et lui répondirent, nous n'avons reçu de Judée aucune lettre à ton sujet et il n'est venu aucun frère qui ait rapporté ou dit du mal de toi. Mais nous voudrions apprendre de toi ce que tu penses, car nous savons que cette secte rencontre partout de l'opposition. Ils lui fixèrent un jour et plusieurs vinrent le trouver dans son logis. Paul leur annonça le royaume de Dieu en rendant témoignage et en cherchant par la loi de Moïse et par les prophètes à les persuader de ce qui concerne Jésus. L'entretien dura depuis le matin jusqu'au soir. Les uns furent persuadés par ce qu'ils disaient et les autres ne crurent point. Comme ils se retiraient en désaccord, Paul n'ajouta que ces mots. C'est avec raison que le Saint-Esprit parlant à vos pères par le prophète Ésaïe a dit « Va vers ce peuple et dis, vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles, ils ont fermé leurs yeux. » De peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Sachez donc que ce salut de Dieu a été envoyé aux païens et qu'ils l'écouteront. Lorsqu'il dit cela, les Juifs s'en allèrent, discutant vivement entre eux. Paul demeura 2 ans entiers dans une maison qu'il avait louée. Il recevait tous ceux qui venaient le voir, prêchant le royaume de Dieu et enseignant ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ en toute liberté et sans obstacle. Donc voilà, on achève ce matin ce livre des Actes. Donc selon les historiens, Paul aurait passé donc ce temps à Rome dans les années 60-62. Les Actes commencent à la Pentecôte, juste après eh bien, la venue et l'ascension de notre Seigneur Jésus-Christ, donc vers 33 passé. Donc ça couvre une période d'une trentaine d'années. Une trentaine d'années durant lesquelles eh bien, l'Évangile s'est répandu petit à petit dans le bassin méditerranéen. Et on arrive à ce dernier chapitre qui vient conclure le livre des Actes. L'apôtre Paul arrive à Rome, prisonnier dans une maison particulière, mais prisonnier quand même. Et le livre se termine comme cela. Et on ne sait pas ce qui est devenu après de l'apôtre Paul. Alors on sait, d'après ce qu'on a lu précédemment dans les Actes, que finalement il a témoigné à César, puisque Dieu eh bien, a dit qu'il a vraiment témoigné à César. Et puis en lisant Tite, Timothée, on comprend que eh bien, Paul a sans doute pu après être libéré et continuer, et peut-être même qu'il est allé jusqu'en Espagne. Donc son ministère n'était pas terminé. Mais pour le livre des Actes, on reste avec ce dernier cliché ici où ça s'arrête. Et en lisant ce chapitre, plutôt que de traiter des aspects doctrinaux ce matin, j'ai cherché, mais qu'est-ce qui peut nous encourager dans ce passage ? Et d'abord, j'aimerais relever une expression qui se trouve dans le premier verset. Il est dit « Une fois hors de danger, nous reconnîmes que l'île s'appelait Malte. » Après une tempête effroyable, donc vous vous souvenez, chapitre 27, juste avant, une tempête qui les avait contraints à tout lâcher. Ils avaient tout abandonné à Dieu. Les voilà maintenant hors de danger. Ils étaient sauvés. Et c'est cela, être hors de danger. C'est être sauvé, c'est être maintenant en sécurité. Ils étaient en sécurité sur cette île de Malte. Mais c'est une belle expression, être hors de danger. C'est une expression qui peut faire référence aussi au salut éternel de notre âme. Qui est véritablement hors de danger ? Si on regarde l'humanité, qui est hors de danger ? Mais les enfants de Dieu, c'est eux qui sont vraiment hors de danger. C'est eux qui sont vraiment en sécurité. Ils n'ont plus rien à craindre. Pourquoi ? Parce que la plus grande sécurité, elle se trouve en Jésus-Christ. Quand on est en lui, alors il n'y a plus rien, il n'y a plus rien ni personne qui puisse nous atteindre. Et tous les hommes de l'Ancien Testament et les hommes du Nouveau Testament l'ont dit à leur manière, qu'ils étaient vraiment en sécurité, hors de danger. Il n'y a rien de plus rassurant que d'être dans la main de Dieu, de se savoir aimé de lui, de se savoir couvert de ses ailes, dans son ombre, on se sent bien. Comme un enfant sevré auprès de sa mère. Voilà, on est dans le calme, on est dans le repos. Et l'homme qui vit cela, il ne craint plus. Il est hors de danger. Dans l'Ancien Testament, d'abord, on voit que les hommes utilisaient des expressions finalement pour parler de cela. Par exemple, David va chanter un cantique. 2 Samuel 22, versets 1 à 5. Si vous voulez le prendre avec moi, vous pouvez garder votre main dans les Actes. David adressa à l'Éternel les paroles de ce cantique. Lorsque l'Éternel l'eut délivré de la main de tous ses ennemis et de la main de Saül, il dit « L'Éternel est mon rocher, ma forteresse, mon libérateur. Dieu est mon rocher où je trouve un abri, mon bouclier et la force qui me sauve. Ma haute retraite est mon refuge. Ô mon sauveur, tu me garantis de la violence. Je m'écris « Loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Car les flots de la mort m'avaient environné, les torrents de la destruction m'avaient épouvanté, les liens du séjour des morts m'avaient enlacé, les filets de la mort m'avaient surpris. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, j'ai invoqué mon Dieu. De son palais, il a entendu ma voix, et mon cri est parvenu à ses oreilles. » Et on voit ici toutes les termes qu'il emploie pour décrire son Dieu. Il est pour lui son rocher, sa forteresse, son libérateur, son refuge, son abri, son bouclier, sa force, sa haute retraite. Quoi de plus sécurisant ? Quand on est blotti en Dieu et qu'on a tout ça, Dieu l'entoure par devant, il l'entoure par derrière, il est en sécurité. Alors le croyant peut dire « Le Seigneur est mon aide. » Je ne craindrai rien. Que peut me faire un homme ? Prenons un autre exemple dans l'Ancien Testament. Psaume 91, versets 1 à 7. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Là encore, on voit cette grande sécurité accordée à celui qui repose à l'ombre du Tout-Puissant. Il dit sa fidélité, c'est un bouclier, c'est une cuirasse. Rien ne peut atteindre celui qui se confie dans le Seigneur. Plus rien à craindre, ni les terreurs de la nuit, l'inconnu, l'invisible, ce qui nous effraie, ni la flèche qui vole de jour, le visible, hein, peut-être une attaque franche de l'ennemi, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Peut-être derrière la peste, derrière la contagion, on peut voir le jugement de Dieu. Et on n'a plus à craindre le jugement de Dieu. En lui, il n'y a plus de condamnation. Nous sommes en sécurité. Bien sûr, si on désobéit, alors eh bien, on se retrouve dans un état de faiblesse. Hein. Mais quand on est en lui, on demeure en lui, alors on est dans une protection. Et de toute façon, il n'y aura plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et donc déjà dans l'Ancien Testament, il était clair que tous ceux qui se blottissaient en lui étaient dans une parfaite sécurité. Ils étaient hors de danger. Est-ce que ce n'est pas encore ce que dit David, je crois Sébastien l'a cité, « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette, ton bâton me rassure. » Mais cette sécurité, elle se prolonge bien sûr dans le Nouveau Testament. Et quand on arrive dans le Nouveau Testament, les apôtres vont employer d'autres termes pour dire « mais nous sommes en sécurité, nous sommes hors de danger ». Par exemple, Romains 8, versets 35 à 39. Il dit « qui nous séparera de l'amour de Christ ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse ou la persécution ou la faim ou la nudité ou le péril ou l'épée ? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Il n'y a rien ni personne qui puisse nous séparer de l'amour de Dieu et de notre Dieu. Si on est enfant de Dieu, si on est né de nouveau, si nous avons été régénérés par le Saint-Esprit et donc nous avons connu une conversion à Jésus-Christ, alors nous sommes hors de danger, à l'écart. Rien ne pourra nous séparer de son amour, ni l'épreuve, ni les souffrances, ni les hommes, ni les anges. Paul dit bien, aucune créature peut nous séparer de son amour. Et quand on revient dans le livre des Actes, on voit Paul qui est maintenant hors de danger. Pourtant, il va faire une expérience qui n'est pas forcément agréable. Donc, les barbares, comme il les appelle dans le texte de l'île de Malte, ont fait un feu pour qu'il se réchauffe. Paul prend un tas de broussailles, il les jette dans le feu et à ce moment-là, sous l'effet de la chaleur, normal, hein, une vipère ou un serpent venimeux, en tout cas, en sort. Et j'aimerais relever une image. On sait, le serpent ancien, dans la Bible, c'est le diable, hein, c'est Satan, celui qui a tenté Ève dans le jardin. Et le fait d'être mis hors de danger en Christ, ça ne signifie pas que le diable ne puisse pas essayer de venir s'agripper à nous, hein, nous enrouler le bras, essayer de nous mordre. C'est ce qu'il veut faire. Pierre dit, soyez sobres, veillez, Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Et le fait d'être hors de danger, ça ne signifie pas qu'on ne puisse pas encore être agrippé d'une manière ou d'une autre. Mais on n'a rien à craindre. Parce que même un ange, si puissant soit-il, un démon, ne peut nous séparer de notre Seigneur. Rien ne peut nous couper de sa fidélité et de son amour. Et il faut comprendre une chose, c'est que le serpent, il est d'ores et déjà condamné. De même que Paul, au verset 5, a secoué l'animal qui est tombé dans le feu, le diable est déjà condamné. Le feu est déjà réservé pour lui. Sa condamnation, elle est programmée, elle est certaine. Jésus leur dit, je vous y lis un texte des évangiles, « Je voyais Satan tomber du ciel, comme une étoile. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Dieu a vaincu, et parce qu'il a vaincu, il nous a donné le pouvoir, c'est ce qu'il dit, de marcher sur la puissance de l'ennemi. Et cette parole, elle est accomplie d'une manière littérale dans notre texte, où on voit Paul secouer ce serpent qui ne lui fait aucun mal et qui tombe dans le feu. Maintenant, Dieu ne nous invite pas à essayer de marcher sur des serpents. Je le dis parce que malheureusement, ça existe. Et il y a déjà un pasteur qui est mort, son fils pasteur qui est mort, parce que, ils ont voulu s'essayer à ce genre de choses. Mais ce n'est pas ça. C'est que Dieu nous a donné le pouvoir sur la puissance de l'ennemi. C'est ça la victoire, sur le serpent. Dieu nous donne de pouvoir vaincre en lui. Celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Quelle belle promesse, quelle merveilleuse chose. Le Saint-Esprit en nous domine, il règne. Et même si le serpent essaye de nous mordre, Paul secoua l'animal et il ne ressentit aucun mal. Si on fait ce qu'il faut, alors on ne ressentira aucun mal. Tous s'attendaient à le voir enflé, à tomber raide mort. Ils attendaient. Et il ne se passa rien du tout. Et j'aimerais souligner que la puissance du diable a été brisée. La promesse est claire. Colossiens 1, verset 13. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. La version Darby dit, il nous a délivrés du pouvoir des ténèbres. Le diable n'a plus de pouvoir. Nous sommes libérés quand nous sommes en lui. En lui. Alors, il faut demeurer dans son amour, confesser ses péchés, rester en lui, dans la lumière. Et alors, nous sommes libres. Dieu dit, soumettez-vous à Dieu, résistez au diable, il fuira loin de vous. Là encore, une belle promesse. On a les moyens de faire fuir le diable. Qu'est-ce que Dieu nous demande ? L'obéissance. Simplement l'obéissance, la fidélité à ce qu'il nous dit, à ce que l'on lit. Et puis ensuite, résister. Dire non. Repousser. Et alors, il finit par fuir. Ça nous conduit au repos. Parce que son pouvoir a été brisé à la croix. Nous sommes hors de danger. Mais être hors de danger, ça ne signifie pas qu'il n'y a plus de problèmes, de difficultés, de souffrances, d'épreuves. Et c'est la deuxième chose qu'on peut voir ce matin. Donc l'apôtre va rester quelques mois sur cette île de Malte. Et puis finalement, il arrive à Rome, au verset 16. On peut relire Actes 28, verset 16. Lorsque nous fûmes arrivés à Rome, on permit à Paul de demeurer dans un domicile particulier avec un soldat qui le gardait. Et Paul, en tant que enfant de Dieu, il ne craint plus rien. Il ne craint plus les hommes, il ne craint plus les anges, il ne craint pas non plus le Créateur d'une mauvaise manière. Crainte, oui, dans le respect. Mais il ne craint plus la condamnation. Il est son Seigneur, il est son Sauveur. Il est hors de danger. Et pourtant, il va vivre encore des choses qui ne sont pas forcément faciles, des contraintes. Et en cela, il nous ressemble. Il est en sécurité, mais il vit des contraintes. D'abord, il est dans une maison assignée à résidence. Alors, on se dit, mais c'est quand même beaucoup mieux que d'être dans un cachot. Oui, certes, il est libre dans cette maison, mais il n'est quand même pas libre de ses mouvements. Il y a ce soldat qui le garde jour et nuit. Et ça signifiait quoi? Ça signifiait qu'il était enchaîné à ce soldat. D'ailleurs, il est dit dans notre texte un petit peu plus loin, je vous lis, « Voilà pourquoi j'ai demandé à vous voir et à vous parler. Et c'est à cause de l'espérance d'Israël que je porte cette chaîne. » Donc, il avait une chaîne qui l'enchaînait à ce soldat. Donc, voilà, c'est quand même pas l'idéal d'être tout le temps attaché à un homme comme cela. Et donc, une certaine liberté, mais des contraintes, des choses qui ne lui permettent pas d'avoir une pleine liberté. Et si on est chrétien ce matin, on est hors de danger, mais on a aussi des contraintes, des choses que nous vivons. Je cherchais des synonymes, mais c'est assez difficile de trouver. Contraintes, des astreintes, des obligations, des choses, il faut les supporter. Finalement, on pourrait dire que c'est le joug du Seigneur. Il permet qu'il y ait un joug sur chacune de nos épaules et on doit l'accepter. Il est là. Pour un évangéliste comme Paul, un pionnier, un apôtre qui sans cesse partait évangéliser, être assigné à résidence, c'est quand même difficile, même s'il pouvait inviter librement. Mais bon, lui, il avait le feu, il voulait répandre. Et Dieu va lui redonner cette liberté plus tard. Et nos contraintes, elles sont sûrement différentes de l'apôtre, mais elles sont là, elles existent quand même. Elles peuvent être d'ordre financier, elles peuvent être d'ordre professionnel, familial, de voisinage, parfois personnel, parfois intérieur, secrète. Parfois, ça concerne la santé dans notre corps. La vie impose toutes sortes de contraintes. Mais l'enseignement qu'on peut tirer de ce passage, c'est que les contraintes n'empêchent pas d'être utiles pour le Seigneur. Et on avait vu, quand on était en acte 16, où là, l'apôtre Paul était carrément dans un cachot, enchaîné, avec des fers aux pieds, mais ça ne l'a pas empêché d'être utile auprès des prisonniers qui étaient autour de lui, et finalement auprès du geôlier et de sa famille. Et je dirais qu'il faut qu'on apprenne à vivre avec lui, pour lui, malgré les contraintes. Puisque de toute façon, c'est là le joug que le Seigneur nous impose, peut-être pour le moment, alors eh bien, il faut continuer à avancer, continuer à servir. Paul ne va pas s'arrêter parce qu'il est enchaîné, parce qu'il est assigné à résidence, mais il va convoquer les principaux sacrificateurs. Et il va essayer de continuer à témoigner. Et certainement, le Seigneur veut qu'on apprenne à tirer parti de toutes nos difficultés. Aussi, il est vrai que ce que l'on vit, et parce qu'on le vit, c'est ce qui nous semble souvent le plus difficile, le plus pénible. Et c'est peut-être réellement difficile. Il y a des choses qui sont très difficiles à vivre. Et parfois, il est bon de regarder un petit peu autour. Parfois, on se dit, qu'est-ce que je peux faire dans ma situation? Comment puis-je être utile avec ce problème, avec ce fardeau, avec ce poids, avec cette écharde dans la chair? Comment puis-je être utile? Donc, au début du mois de juillet, je suis allé à la convention de l'ABF. Donc, qui traitait des sujets éthiques, et notamment l'euthanasie et d'autres sujets. Et là, j'ai entendu le frère Christian Klopfenstein. Je ne sais pas si vous le connaissez. Et il a partagé un témoignage que j'aimerais vous redonner. Donc, son sujet était l'euthanasie. Et à la fin de son message, il a donné l'exemple d'un homme qui s'appelle Pierre Panis. Et je veux vous lire son témoignage. C'est intéressant parce qu'en relisant son témoignage, j'ai vu qu'il habitait à Saint-Laurent-de-la-Salanque, juste à côté. né en 1952, marié en 1977, viticulteur et arboriculteur de profession, hyper dynamique de nature, je vivais heureux et croquais la vie à pleines dents. Un jour, vers la fin de l'année 1985, j'avais 33 ans. J'ai commencé à être gêné pour utiliser un tournevis. 6 mois après, j'étais dans un fauteuil roulant et, 3 ans après, ne pouvant plus tenir ma tête, j'optais pour le lit que je n'ai plus quitté depuis ce jour. Aujourd'hui, je suis entièrement paralysé, trachéotomisé, branché à un appareil respiratoire et ne peut désormais remuer que les yeux. Cette maladie, appelée sclérose latérale amyotrophique ou maladie de Charcot, entraîne une dégénérescence inexorable de tous les muscles et conduit rapidement le malade à une dépendance totale. Par bonheur, je possède un ordinateur équipé d'un logiciel spécial qui me permet d'écrire avec les yeux. C'est grâce à cet équipement que je peux vous écrire aujourd'hui. Le premier moment d'abattement passé, je me suis tourné vers le ciel et j'ai demandé « Pourquoi moi ?» Mon sort me paraissait injuste. Tant d'individus sans foi ni loi, pourquoi moi ? Je voulais comprendre et j'ai compris. J'ai compris qu'il m'avait fallu cette maladie pour me rendre compte que, comme beaucoup de monde, je me mettais la conscience tranquille en allant à l'église le dimanche, mais qu'en fait j'étais très loin de suivre la route du Seigneur. Aujourd'hui, je suis entièrement paralysé. Je ne peux remuer que les yeux, mais je suis heureux. Heureux de marcher à nouveau sur la route du Seigneur. Heureux de vivre enfin en conformité avec mon idéal. Heureux d'être modestement utile à mon Dieu. Ayant toujours eu la foi, à l'annonce de ma maladie, je me suis jeté en elle avec le désespoir et la frénésie d'un naufragé sur une bouée de sauvetage. Malgré l'extrême douleur des premières années, le désarroi dure tant que dure la descente aux enfers, j'ai maintenu ma confiance en Dieu. La descente dure tant qu'il reste des muscles à immobiliser, à paralyser. À partir de là, quand on a touché le fond, quand la maladie ne trouve plus de quoi alimenter son appétit destructeur, on entre dans ce que nos éminents spécialistes appellent la phase terminale. Il y a 17 ans que je suis en phase terminale. Je m'y suis habitué. Et au risque de vous surprendre, ma joie de vivre balayant ou occultant tous les inconvénients et contraintes liés à mon état, je suis heureux. J'ai les idées bien en place et aucune envie de me plaindre. Oserais-je dire au contraire, gloire à Dieu. Réaction au malheur incompréhensible pour la plupart, mais Dieu remplit ma vie et je ne manque de rien. Oui, la souffrance existe, aussi bien physique que morale, mais il est écrit dans la Bible, « Venez à moi, vous tous qui peinez et ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. Chargez-vous de mon joug et mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le soulagement pour vos âmes. Oui, mon joug est aisé et mon fardeau léger. » Je suis là pour en témoigner. J'ai, bien souvent, remonté le moral des soignants désespérés pour des peines légères et passagères. Mais j'ai moi-même rarement perdu le moral et je n'ai jamais perdu l'espoir parce que je n'ai jamais douté de l'amour de Dieu. Comment penser à l'euthanasie quand on a Dieu dans le cœur et quand aucune souffrance ne peut altérer notre confiance en lui? Les, entre guillemets, sans Dieu sont à plaindre, car ils ne connaissent pas l'incommensurable bonheur de se sentir aimé de Dieu. Ils ne peuvent pas imaginer le secours bien réel dont bénéficient les enfants de Dieu dans l'épreuve. Quand l'enfer se déchaîne contre nous, nous savons qu'il ne s'agit que d'une épreuve supplémentaire, destinée à tester notre foi et notre confiance envers le Tout-Puissant, Créateur de tout ce qui est. En conclusion, qu'importe notre vie actuelle, offrons-la joyeusement à la divine justice. Soyons des enfants fidèles à notre Dieu, d'amour et de miséricorde, des esclaves de l'amour, car nous savons que nous passons l'éternité dans sa gloire. Et j'aimerais juste vous lire courtement, il a écrit une lettre au Premier ministre, de l'époque. Donc, c'était en 2003. Monsieur le Premier ministre, je suis muet, totalement paralysé, traqué, automisé, branché à un appareil respiratoire et ne peut désormais remuer que les yeux. Cette maladie, appelée sclérose latérale amyotrophique ou maladie de Charcot, entraîne une dégénérescence inexorable de tous les muscles et elle conduit rapidement le malade à une dépendance totale. Mais la vraie vie, la vraie force de l'homme réside dans la tête et dans le cœur. Monsieur le Premier ministre, si on fait abstraction de la dignité humaine, qui est l'argument des orgueilleux et des lâches pour en finir, je vous assure que, même dans cet état, la vie est merveilleuse à vivre. Monsieur le Premier ministre, je revendique le droit de vivre. L'euthanasie est la porte ouverte à tous les abus. L'euthanasie ouvre la porte à tous les fous qui se croient investis d'une mission de nettoyage. La législation de l'euthanasie serait une régression de l'être humain jusqu'au stade animal le plus primaire. Monsieur le Premier ministre, c'est l'amour qui fait tourner le monde et c'est l'orgueil et la haine qui le détruisent. Monsieur le Premier ministre, je revendique le droit à donner de l'amour. Je revendique le droit à recevoir de l'amour. Je revendique le droit à l'amour aussi longtemps que Dieu laissera battre mon cœur. Quel témoignage saisissant. Quelles sont nos contraintes aujourd'hui? Certaines sont réellement éprouvantes. Pour d'autres, elles paraissent vraiment désuètes à la lecture d'un témoignage comme celui-là. Mais même un homme à qui il ne reste plus rien au niveau de la mobilité, il peut encore donner de l'amour et en recevoir. Certains diraient, mais qu'est-ce que cela à côté de tout ce qu'il y a à faire sur la terre, hein ? Il y a tellement de choses à faire. Seulement donner de l'amour. Mais est-ce que ce n'est pas là ce que Dieu dit ? C'est la chose la plus grande, c'est la chose la plus belle, la plus importante que l'homme puisse faire, aimer. Et c'est bien souvent là aussi où nous sommes en faillite, où on a la plus grande lacune. Aimer, c'est jamais acquis une fois pour toutes. Aimer, c'est l'affaire d'une vie. Et sans cesse, on recommence, on recommence, on recommence. Sans cesse renouveler cet amour, approfondir à cet amour. Personne qui peut dire « je suis arrivé hein? ». Mais aimer, ça implique aussi de sortir de soi-même. C'est possible par notre mort avec Christ. En lui, nous mourons avec lui, sortons de nous-mêmes. Afin que ce ne soit plus nous qui vivons, mais lui qui vive en nous. Pour ne plus se regarder soi-même, pour ne plus se focaliser sur soi-même. Mais quand on meurt avec lui, alors il nous aide à vivre pour les autres, à changer. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime, dit la parole de Dieu. Aimer, c'est le plus grand commandement. Il n'y en a pas de semblable. Et quand il ne restera plus rien, il restera une chose, l'amour. L'amour de Dieu qui nous a accordé en son Fils bien-aimé, Jésus-Christ. Et l'amour, finalement, qu'on aura pu offrir par lui aux autres. Il n'y aura plus que cela qui comptera. Et donc, les contraintes n'empêchent pas d'être utiles au Seigneur. Il est possible de tirer parti de nos difficultés, de continuer à vivre pour sa gloire malgré ce que nous vivons, même si c'est, il ne reste plus qu'à aimer, alors eh bien c'est immense, aimer c'est immense. On peut aimer. Nous sommes hors de danger, nous pouvons servir le Seigneur, et même si on a des contraintes, mais il y a une autre bonne nouvelle supplémentaire. C'est que le Seigneur nous a promis que nous allons porter du fruit. C'est lui qui le dit. Pourquoi ? Parce que nous sommes destinés à cela. La Bible dit que nous sommes des sarments qui sont attachés au cep. Et le sarment n'a pas d'autre fonction que d'apporter le fruit, que de donner le fruit. C'est notre vocation. Ainsi, si Dieu nous laisse sur la terre, c'est pour que nous portions du fruit. Il veut que nous en portions. Alors peut-être que nous ne le voyons pas, ce fruit. Peut-être qu'il est, à nos yeux, petit, insignifiant, mais nous portons du fruit. Nous portons du fruit. On vient de le voir par l'amour, déjà, que l'on peut donner. Nous portons du fruit par l'exemple, peut-être, que nous pouvons être. Nous portons du fruit par les prières que nous offrons à notre Dieu comme un encens qui monte et qui est recueilli même dans des vases. Nous portons du fruit. Et on porte du fruit aussi par le témoignage, par le fait de partager cette bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et si on est ici sur terre, c'est que déjà, on porte du fruit. Et Dieu veut nous émonder pour qu'on porte encore plus de fruits. Peut-être est-ce aussi par le fait de servir les autres. Mais j'aimerais relever une parole de Paul qui est comme une promesse de Dieu. Elle se trouve au verset 28, Actes 28, 28. Il dit « Sachez donc que ce salut de Dieu a été envoyé aux païens et qu'ils l'écouteront. » c'est une belle promesse, ça. « Pour nous, païens, témoins parmi les païens, ils l'écouteront, nous dit Dieu. » Alors, bien sûr, dans ce monde du XXIe siècle, où on se retrouve confronté sans arrêt à cette hostilité face à l'Évangile, mais si Dieu nous laisse sur cette terre, c'est aussi pour que, on porte du fruit en partageant la parole et ils l'écouteront. C'est sa promesse. On a le message, Jésus-Christ crucifié. Peut-être tous ne l'écouteront pas, bien sûr, mais certains l'écouteront. C'est sa promesse. Un peu comme ce qui s'est passé avec les Juifs. Paul s'est retrouvé devant les Juifs, ici, qu'il avait invités, les principaux. Il leur a annoncé, on peut lire les versets 23 à 24, regardez. Les Juifs lui fixèrent un jour et plusieurs vinrent le trouver dans son logis. Paul leur annonça le royaume de Dieu en rendant témoignage et en cherchant par la loi de Moïse et par les prophètes à les persuader de ce qui concerne Jésus. L'entretien dura depuis le matin jusqu'au soir. Les uns furent persuadés par ce qu'ils disaient et les autres ne crurent point. Et là, on voit le bilan. Certains disent « mais oui ». Et d'autres disent « mais non, ils ne croient pas ». Et ça doit nous inspirer ici. On voit Paul, il annonce le royaume de Dieu, il rend témoignage, il cherche à convaincre, à persuader par les Écritures. Et je tiens quand même à souligner que ce sont eux qui sont venus à lui et qui sont restés du matin jusqu'au soir. Paul n'était pas en train de les attacher, « tu vas m'écouter ?» Et à persuader comme ça, non, ils étaient là volontairement. Ils avaient envie de l'écouter. Et nous aussi, on doit persuader, mais on ne doit pas chercher à persuader celui qui ne veut pas l'être, celui qui refuse finalement d'écouter. On fait ce qu'il faut. Mais sinon, oui, il y a une volonté d'essayer de gagner et de montrer par les Écritures, mais regarde ce qui est écrit. Et on est fort de cette promesse, ils l'écouteront. Je suis toujours encouragé avec cette parabole du semeur. Vous savez, jette sa semence et on voit trois types de terrains qui sont trois types de cœurs qui ne reçoivent pas comme il faut la semence. Mais il y a toujours ce quatrième cœur qui est la bonne terre. Et ça veut dire, mais il y a de la bonne terre. Elle est là quelque part, il y a de la bonne terre autour de nous. Il faut la chercher. Il faut semer et chercher. Où est la bonne terre ? Je sème. Pour conclure, au début du livre des Actes, Jésus a envoyé ses disciples. Il a dit qu'il fallait qu'ils annoncent la bonne nouvelle de Jésus-Christ à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Quand on arrive à la fin du livre des Actes, on voit finalement que cette parole s'est accomplie. Ils ont vraiment répandu cette parole. Parfois, Dieu a dû les contraindre par la persécution, parce qu'ils n'y sont pas forcément allés volontairement. Il faut se souvenir que les Juifs ont quand même eu bien du mal à aller vers les païens. Mais finalement, Dieu a dit « oui, vous irez ». Et il les a répandus. Et ils sont arrivés, on peut dire, jusqu'aux extrémités du monde de l'époque, hein, puisque c'était surtout le bassin méditerranéen. Donc voilà, le but était atteint. Mais pour nous, on sait, les extrémités vont plus loin encore, hein, maintenant qu'on est au 21e siècle. Et je vous invite à prier en même temps pour la famille Touche. Ils sont dans le bulletin de New Tribes Mission. Donc, vous verrez, il y a une petite photo, là, cette famille qu'on connaît. Donc, ça y est, ils sont partis en Papouasie-Nouvelle-Guinée pour aller entrer dans une nouvelle tribu qui n'a jamais reçu l'Évangile. C'est beau, hein? Donc, voilà, Dieu est en train de toucher, là, les extrémités parce que les disciples partent. Ça me fait plaisir, des Français en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Ce n'est pas des Américains, même si c'est... On est heureux, hein, que les Américains... Aient... Voilà, merci Seigneur parce qu'ils nous ont apporté l'Évangile. Pour beaucoup, hein, en France. Mais ça fait du bien de voir des Français là-bas. Allez répandre l'Évangile. Nous, notre extrémité du monde, c'est peut-être notre voisin du coin. On a des extrémités là, pas très loin. Hein. Et à l'approche de l'Expo Bible, là, début septembre, on va faire une Expo Bible. Eh bien, voilà, il faut se motiver, hein, et se dire, mais allons chercher la bonne terre. Elle est là quelque part. Continuons l'œuvre des apôtres. Il y a des contraintes, c'est vrai. Nous vivons des contraintes, mais nous sommes hors de danger. Alors, eh bien, nous pouvons vraiment servir le Seigneur. Et j'aimerais juste terminer avec ce verset d'un Corinthiens 15, 58, hein, qui était derrière pendant toute la première partie. « Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. »